Bon, alors là, pour digérer, on va parler un peu des ouvrages. Donc ça va être un sujet beaucoup plus simple à explorer, beaucoup mieux balisé. Je dirais que du point de vue de ce que vous pouvez acquérir là, ça... on est dans un degré de complexité moindre, quand même, en tout cas, j'espère. L'objectif de cette petite séquence, c'est, dans la profusion de ce qu'on identifie comme des livres qui parlent peu ou prou d'éducation d'un point de vue scientifique, essayer d'examiner quelques régularités, quelques endroits où porter le regard de façon privilégiée, et essayer également de comprendre un peu comment fonctionne l'édition de monographies à prétention universitaire dans le domaine de l'éducation. Dans le monde français, on va un peu parler de francophone, mais là je vais faire un peu français. Mais en fait, les frontières sont très poreuses entre la Belgique, la Suisse, la France, voire le Canada. Mais donc là, on est réellement dans du français, on ne parlera pas du tout de l'international sur les ouvrages. On a choisi tout de suite de ne rien faire sur l'international s'agissant des monographies, car là, le continent est encore plus immense que pour les revues. Et on a choisi de faire l'impasse pour une raison très triviale, là encore, c'est qu'autant les revues, on peut imaginer qu'on peut y accéder aux revues internationales, notamment par le biais des revues électroniques, auxquelles sont abonnées souvent les institutions universitaires et les bibliothèques universitaires. Autant du point de vue des ouvrages, à part à la bibliothèque de l'INRP, c'est très difficile de trouver les ouvrages qui ne sont pas français, d'une part parce qu'ils sont très pointus, et d'autre part parce qu'ils sont très très chers. Donc il y a très peu de bibliothèques qui peuvent consacrer des sommes importantes à les acheter, et quand elles essayent de s'ouvrir à l'international, elles préfèrent privilégier la voie des abonnements électroniques. Les ouvrages internationaux, c'est souvent des pavés comme ça et qui coûtent l'équivalent de... C'est pas rare qu'ils soient à 200, 300 euros. Enfin, Sofiane, si tu... 150. Moi, je pense à les handbooks, les choses comme ça, qui sont absolument ruineuses. Je vais consulter de temps en temps l'INRP, et, bon, là, qui sont vraiment hors de portée des bourses moyennes. Et comme, en plus, il y en a énormément d'ouvrages, c'était pas possible de vous donner ni des indications pertinentes, ni utiles, puisque vous aurez rarement dans votre existence à les manipuler, sauf si vous avez la chance de pouvoir fréquenter notre bibliothèque. Je dis notre bibliothèque parce qu'y compris dans les autres bibliothèques de France, il y en a très peu. Voilà. Vous le voyez via le Sudoc, hein, que vous interrogez. Alors, pour les ouvrages français, quelques caractéristiques de l'édition scientifique francophone en éducation. Je l'ai déjà dit, la monographie reste une production importante dans le monde de l'éducation. Je voudrais insister sur un aspect, c'est que quand un doctorant en éducation a fini sa thèse et qu'il en est plutôt content, que son jury en est plutôt content, que les gens autour de lui en sont plutôt contents et qu'il compte un peu faire carrière dans la recherche en éducation, il y a par exemple une coutume implicite, mais qui est encore assez forte, que cette thèse débouche sur une monographie qui est souvent, à la thèse, retravaillée pour être éditée. C'était juste un exemple, mais qui me semble significatif, au sens où il y a souvent... derrière l'ouvrage, surtout derrière l'ouvrage de quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, en fait, son travail de thèse. C'est aussi une façon pour moi de dire, de façon très pratique, que quand vous voyez que quelqu'un vient de sortir un ouvrage que vous ne connaissiez pas encore, sur une problématique innovante, que vous voyez que c'est un jeune, enfin un jeune, cherche en éducation, jeune, c'est de 25 à 40 ans, hein, bon. Mais qui n'a pas encore une grosse carrière derrière lui, que pour X et X raisons, vous ne pouvez pas atteindre son ouvrage, dites-vous bien qu'il y a de fortes probabilités que vous trouviez des articles, des communications dans des colloques et des écrits scientifiques variés de ce même auteur sur le même thème avant. Puisque là également, il est d'usage que quand quelqu'un a fait sa thèse et qu'il va ensuite faire un ouvrage sur cette thèse, il ne fasse pas que ça quand même pendant la période entre 4 et 10 ans que recouvre cette étape, et qu'entre-temps, justement, il commence à publier ou à aller dans des colloques communiquer sur son thème. Voilà, ça c'est un petit truc évident, mais qui est utile toujours à avoir en tête quand on veut amasser de l'information et des ressources. Autre caractéristique de la monographie, en sciences humaines, mais bon, on va parler que de l'éducation, c'est beaucoup d'ouvrages sont en fait des ouvrages collectifs, c'est-à-dire des ouvrages qui sont dirigés, coordonnés par monsieur, madame, etc. et dans lequel il y a 8, 10, 15, 20, voire plus de contributions. Et en fait, dans la majeure partie des cas, si on prend la peine de vraiment regarder ou si on a l'habitude du milieu, ces ouvrages collectifs sont en fait le produit plus ou moins direct, et plutôt plus que moins en général, de colloques, de séminaires, qui se sont déroulés de 1 à 2 ans auparavant, parfois plus, et qui ont été retravaillés pour faire un ouvrage collectif. C'est souvent un réflexe dans ce champ de dire que quand on fait un colloque qui réussit, on fait un ouvrage par derrière. Ouvrage, alors l'avantage, c'est d'avoir sur une question donnée plusieurs points de vue. Le désavantage, c'est qu'il faut souvent aller derrière la couverture pour vraiment retrouver les choses. D'une part, parce que l'homogénéité intellectuelle de l'ouvrage n'est pas toujours évidente. Moi, il m'est arrivé de trouver des livres qu'il y avait un titre en couverture et dedans, il y avait des articles qui n'avaient pas grand-chose à voir avec ce qu'on pouvait mettre dans le titre. Et inversement, de trouver parfois des contributions très intéressantes au sein d'un ouvrage dont la question avait l'air pas très intéressante. Donc là, le problème de l'ouvrage collectif, c'est qu'il faut aller un peu fouiller. Heureusement, Google est là. Je dis ça en rigolant, au sens que via le service Google Books, il y a de plus en plus d'ouvrages qu'on peut s'amuser à feuilleter en ligne pour voir ce qu'il y a dedans, et que moi j'utilise de plus en plus ce service-là pour essayer d'avoir une idée plus claire quand les éditeurs eux-mêmes ne mettent pas des sommaires détaillés comme c'est le cas chez certains. Du point de vue, une anecdote aussi simplement sur ces ouvrages collectifs qui sont souvent des actes de colloque, les directeurs ou les coordinateurs des ouvrages, ce qui correspond à la notion francophone des éditeurs en anglais, sont souvent des personnalités un peu reconnues dans le champ de l'éducation, certains diraient des mandarins, qui ont une position organisationnelle, par exemple responsable de labo, ou une position dans le champ qui leur permet d'organiser le colloque, de le coordonner, de mettre tout ça en harmonie. Mais c'est souvent pas eux les principaux contributeurs de l'ouvrage en question. Il n'est même pas rare de voir des ouvrages dirigés par Monsieur X et Madame Y, dont l'essentiel du contenu intellectuellement pertinent est fait par d'autres gens dedans. Hein, donc c'est toute une gymnastique. Je dirais, pour savoir ce que produit quelqu'un, il faut regarder les ouvrages qu'il a fait vraiment lui, pas forcément ceux qu'il a dirigés, ou parfois il n'a eu qu'une contribution indirect, bon, c'est quelque chose à savoir, mais enfin, là aussi, il suffit d'aller feuilleter, d'aller dans les articles pour comprendre vraiment ce qui se passe. Mais ça veut dire aussi que quand on est dans une démarche, par exemple, de restitution, comme nous, quand on fait nos dossiers de synthèse ou d'actualité, ou vous, si vous avez à un moment donné à dire voilà quelles recherches ont été faites en telle année, etc., il ne faut pas s'arrêter, par exemple, à la date de publication formelle de l'ouvrage, style ouvrage édité en 2009. Il faut vraiment aller fouiller un peu. Alors, quand les ouvrages sont bien faits, ils vous disent cet ouvrage a été publié à la suite d'un colloque qui s'est tenu les 16 et 17 février 2007 à l'Université de Lausanne. Bon, au moins, donc on sait, contributions qui ont été faites en 2007, donc ça veut dire déjà qu'on n'est pas en 2009, on est en 2007. Et quand la communication est faite, c'est souvent sur des recherches qui ont été faites avant, donc il faut intégrer quand même ce décalage temporel, pour comprendre des fois des aspects où ils parlent de quelque chose qui n'existe plus. Je dis n'importe quoi, mais la recherche en UFM, il peut y avoir des ouvrages qui sont sortis en 2009 qui en parlent comme quelque chose de pérenne, parce que ça a été fait avant qu'on prenne la décision de mettre les UFM dans les universités, quoi. Je veux dire, bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis il y a les ouvrages un peu plus vicieux, un peu plus pervers, qui ne disent absolument pas que l'ouvrage vient d'un colloque. Et donc, on a l'impression qu'il s'agit d'articles qui ont été faits dans l'année de l'édition, et on se rend compte par hasard, en fouillant un peu, ça m'est aussi arrivé, de se rendre compte qu'en fait, les choses ont été écrites jusqu'il y a 5, 6, 7 ans auparavant. Donc, ce qui veut dire, au niveau scientifique, au niveau de la pertinence par rapport au fait éducatif, des choses différentes. Bon. Donc là, il y a un petit travail quand même d'enquêteur avec sa pipe, sa loupe et sa casquette à faire, parfois. Alors la frontière est parfois floue, ça c'est une des grosses difficultés. Moi il se trouve que je tiens la rubrique signalement de l'actualité des livres, des ouvrages pour la VST là, sur notre site web. Un des premiers problèmes que j'ai eu à résoudre au début, c'est que la frontière est souvent floue entre la littérature de recherche, les essais, les guides pratiques, les documents, les pamphlets, etc. On n'est pas comme dans le cas des revues, où on a des revues qui se présentent toutes quand même comme des revues universitaires,
et avec quelques revues de vulgarisation. Et où là, après, il y a juste, quelque part, à avoir dans sa tête une sorte de gradation par rapport à la qualité, la notoriété de la revue et tout. Là, on ne sait pas, de prime abord, quels sont les ouvrages qui s'adressent plutôt à des chercheurs ou quels sont ceux qui s'adressent plutôt à des praticiens. D'autant plus que pour des raisons commerciales bien compréhensibles, en général, ils mettent dans leur quatrième de couverture, cet ouvrage s'adresse à et suit toutes les populations possibles susceptibles de pouvoir acheter cet ouvrage. Donc, les étudiants, les formateurs, les décideurs, les responsables, et bon, bref. Donc, ça ne nous dit strictement rien.
C'est pas la collection qui vous aide pour ça ?
Alors, justement, on va y venir. C'est le but de mon séminaire. Ne cassez pas mes effets.
J'ai mangé.
Voilà. Mais, donc, non. Donc, effectivement, on n'a pas de critères évidents. Et quand je dis que la frontière est floue, c'est que même des mêmes auteurs peuvent à un moment donné faire un ouvrage de recherche et d'autres fois un ouvrage un peu plus qui est de l'ordre de l'essai. Bon, alors le cas typique, c'est Philippe Mérieux. Philippe Mérieux qui a une énorme production. Des fois, il s'adresse au grand public, des fois, il s'adresse à ses confrères, à ses collègues, d'autres fois aux professeurs, etc. Bon, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et si vous regardez un peu l'actualité éditoriale dans les rentrées, vous avez un marronnier, ce sont tout ce flot d'ouvrages qui paraissent, alors soit de ce que j'appellerais l'école réactionnaire en France depuis le début des années 80, c'est-à-dire tous les gens qui disent chaque année l'école va de plus en plus mal, l'école sombre, le naufrage, on n'enseigne plus à nos enfants, on fabrique des crétins, j'en suis la preuve, etc., etc. Bon, donc là, qui sont des succès de librairie, mais qui sont des essais qui n'ont rien à voir avec la littérature de recherche, quoi qu'on en pense par ailleurs. Bon, moi, j'aime pas Brighelli. Mais même si j'aimais Brighelli, je ne pourrais pas soutenir que c'est de la littérature scientifique. C'est de l'essai, c'est de l'opinion. Bon. Et c'est très bien pour la démocratie, mais évidemment, ce n'est pas ce qui nous concerne en l'occurrence. Et pareil pour les autres types, on va en voir des illustrations concrètes. Bon, Laure en a un peu parlé. Comme pour l'ensemble des SHS, il faut être clair que ces ouvrages ont une diffusion très modeste. Une grande part de leur diffusion, Sandrine me contredira peut-être, s'appuie quand même sur les ventes aux institutions, c'est-à-dire les bibliothèques d'IUFM, d'université, les centres de documentation, un certain nombre d'institutions qui ont à travailler avec la formation et donc qui achètent ces ouvrages. Il y a peu d'achats individuels. Aussi pour une raison, c'est que l'éducation fait partie des champs qui n'existent quasiment pas dans la librairie générale. Vous allez dans une librairie générale, quand il en existe encore, et vous cherchez les rayons qui s'occupent de ça, vous avez au mieux un rayon sciences humaines, où vous trouvez pas mal d'histoires, de psychologie, peut-être un peu de sociaux. Il est très rare qu'il y ait de l'éducation, hormis les essais grand public dont je parlais avant. Et de ce point de vue-là, paradoxalement, pour les ouvrages de recherche en éducation, le développement de la vente numérique, électronique, le développement de la vente en ligne est plutôt une chance, parce qu'on ne pourra jamais attendre des libraires, même avec un super réseau de librairies en France, qui est une grosse présence des ouvrages de recherche en éducation, parce que c'est un problème de place, c'est un problème de stock, c'est un problème d'invendu, etc. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des ouvrages qui vendent un ou deux exemplaires. En revanche, bah, c'est clair que via soit la vente en ligne sur les sites des éditeurs, soit via Amazon, Fnac, à la page, je ne sais quoi aujourd'hui, quels sont les leaders, bah, c'est clair qu'on peut se permettre de retrouver des ouvrages qui ne peuvent plus être dans le circuit de la distribution physique, soit pour des raisons qui sont trop vieux, soit tout simplement parce qu'ils n'y ont pas leur place. Alors ceci étant dit, le cadre étant fixé, comment on peut évaluer la production française de littérature de recherche en éducation ? Bon, il n'y a pas d'indicateur objectif, puisque je vous ai expliqué qu'on ne peut pas tracer de frontières précises. Donc moi j'ai un indicateur qui n'a aucune valeur en dehors de cette salle, mais bon, je m'en sers, c'est le nombre d'ouvrages que je signale chaque année. Qu'est-ce que je fais chaque année ? Dans la rubrique VST, signalement d'ouvrages, je prends un certain nombre d'ouvrages de francophones qui me semble intéressant à signaler à nos abonnés la lettre d'actualité de la VST. Et donc, je leur signale les ouvrages et j'ai remarqué que chaque année, j'en signale à environ une centaine. On peut estimer que ça pourrait monter à 150, mais depuis 4-5 ans que je fais cette rubrique, que j'entretiens cette rubrique, je crois pouvoir dire que je ne monterai pas au-delà de 150. C'est-à-dire que l'essentiel, il est très rare que je m'aperçoive qu'un ouvrage important est paru, que j'ai oublié de signaler, ça arrive, donc c'est là le delta entre 100 et 150, mais ça va rarement au-delà. Hein, je suis assez large. Donc on peut dire, ça donne un ordre du dé sur le nombre de monographies qui sont dans le champ de la recherche en éducation, qui sont éditées en France ou dans le domaine francophone chaque année. Bon, il est clair que je signale beaucoup moins les ouvrages, par exemple, québécois, pour des raisons d'accessibilité. Donc si on les rajoutait, ça montrait un petit peu, mais pas énormément. Alors, j'avais promis de vous aider justement à comment s'y repérer. Ben, ça va être finalement assez simple. J'ai listé d'une part des éditeurs qui occupent une place importante et centrale aujourd'hui dans le champ de la recherche en éducation, et d'autre part des éditeurs qui peuvent de temps en temps publier dans le champ de la recherche en éducation, mais où leur part est beaucoup plus modeste. Donc je me mouille hein, carrément, et ça sera à vous, à partir de votre expérience, de me montrer des exceptions significatives. Mais bon, il faut me démontrer. Donc ce que j'ai appelé des éditeurs centraux dans le champ. Avec tout de suite une remarque, ça change très vite. En l'occurrence, ça change très vite, c'est-à-dire que les collections chez les éditeurs peuvent naître et disparaître très rapidement. On est, par exemple, dans le champ des éditeurs privés, dans le cadre de maisons d'édition qui peuvent soit péricliter très vite, soit naître, soit surtout dans le cas de grandes maisons d'édition, changer de stratégie. Bon. Donc les choses sont très rapides. Ce qui est vrai aujourd'hui en 2009 n'était pas vrai forcément en 2003 et ne le sera peut-être pas en 2013. Donc c'est réellement une photo à un moment donné. Alors un éditeur qui me semble incontournable, c'est un éditeur donc belge. Alors on dit toujours de book ou de buck ? De book. Consensus pour de book. Alors, de book, il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est, mais je ne sais jamais le présenter. Alors, de book fait partie des éditeurs que je mentionne systématiquement, moi, dans pour les ouvrages à recenser. C'est-à-dire qu'avec la pratique, je leur fais une confiance, entre guillemets, aveugle. Au sens où, dès qu'il y a des ouvrages qui paraissent, qui sont dans une des deux collections que je cite sur Diaporama, c'est-à-dire Perspectives en éducation et formation, j'ai mis entre parenthèses le nom du directeur de collection. Donc Philippe Jonnert d'un côté et de Quetel de l'autre. Dès qu'il y a un ouvrage qui paraît dans une de ces deux collections, je le signale systématiquement parce que j'ai vu qu'avec le temps, quand même, il y avait quelque part une présomption d'intérêt, de qualité scientifique très forte pour ces ouvrages. Bon. Et par ailleurs, je voudrais ajouter qu'ils sont très bien édités. C'est-à-dire qu'ils sont bien mis en forme, il me semble que les références bibliographiques sont abondantes, ils sont agréables à lire. Je trouve qu'il y a un travail éditorial très, très appréciable derrière. Alors, je vous en ai apporté un exemple, là, j'ai volé cet exemplaire, que j'avais sorti moi de la bibliothèque d'ailleurs, à Nifefan. Ça, c'est un exemple de la collection Perspectives en éducation et formation. Vous voyez, bon, actuellement leurs couvertures sont comme ça. Il y a 3 ans, elles étaient autrement, hein, donc c'est pour ça que là aussi ça part très vite. L'autre collection, je crois que c'est la même chose, mais en orange, en gros, me semble-t-il, de mémoire. Quand je dis que c'est des livres qui sont assez riches, y compris les illustrations, les graphiques, etc., c'est bien fait, c'est agréable à lire. Et au niveau scientifique, c'est vraiment très représentatif de la recherche en éducation francophone. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Belges, évidemment, mais aussi beaucoup de Français, de Suisses, de Canadiens. C'est un spectre très varié. On peut même dire que c'est quasiment international, au sens où la visée est quand même très large. En plus, intérêt des bouquins chez Debook, c'est qu'ils ont un site web qui est bien fait, puisqu'à chaque fois que paraît un livre, et le site web est relativement à jour. Il y en a certains, le livre il paraît en librairie, ils le signalent sur leur site 3 mois après. Chez The Book, c'est assez instantané. Et en plus, donc, sur leur site web, on peut trouver non seulement la quatrième de couve, mais des bios de l'auteur et surtout, et ça c'est très important pour nous et j'espère pour vous, le sommaire détaillé. Le sommaire détaillé, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dedans. Je vais tout de suite parler d'un autre éditeur, chez L'Harmattan. Alors chez L'Harmattan, la fiche que vous avez du livre sur leur site web, elle vous donne le titre. Elle ne vous donne même pas la quatrième de couve, ils s'amusent à faire une présentation qui n'est pas celle de la quatrième de couve, et vous n'avez pas le sommaire. Dans 8 cas sur 10, je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans l'ouvrage. Donc je ne le signale pas. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, moi je suis désolé. Mais... Donc chez Dubuc, ça c'est très bien fait. Donc deux collections. Alors la frontière entre les deux collections, je dois avouer qu'elle n'est pas énorme, énorme.
Oui.
Oui, je vais le faire circuler. C'est un exemple parmi d'autres hein, que j'ai pris parce que j'aurais pu en prendre un autre. Je vous le fais circuler. La frontière entre les deux collections n'est pas énorme. Il y en a une qui est plutôt tournée vers l'innovation pédagogique, les praticiens, etc. L'autre qui est plus tournée vers l'avancement des recherches pures et tout. Bon, quand je regarde la variété des titres, ça ne me saute pas aux yeux. Et je dirais qu'à ce stade, ce n'est pas très important. L'important, c'est de bien repérer ces deux collections. Elles sont regroupées chez Dubuc dans l'ensemble plus général qui est pédagogie et sciences de l'éducation. Parce qu'il y a beaucoup de psychologie chez Dubuc. Hein. Je réfère à la première journée lundi où je vous ai expliqué qu'en Belgique, la psychologie et la pédagogie étaient beaucoup moins séparées que chez nous, etc. Donc, vous voyez, il y a des fils entre tout ce qu'on dit. Hein, et puis, ça c'est pas toujours apparent.
Et parfois, ce sont les actes de certains congrès.
Et bien sûr, comme... vous avez peut-être manqué le début. C'est ce que j'ai dit en prologue, justement, c'est que souvent, les ouvrages collectifs sont des actes de colloques, de congrès, etc. Simplement, chez Dubuc, il y a d'autres collections qui concernent l'éducation, mais qui sont plus à usage pratique, à visée pratique, qui peuvent être intéressantes parfois pour la recherche en éducation, mais là, on a beaucoup plus d'ouvrages de style guide pour les profs, quoi, pour parler vite. Voilà. Alors que ces deux collections, elles, sont clairement plutôt des collections recherche. Alors juste attention à une chose, quand vous cherchez des références récentes, traquez aussi en général l'édition, c'est-à-dire savoir si c'est la première fois que cet ouvrage sort ou si c'est la xème réédition d'un ouvrage qui est devenu un classique. C'est important là aussi pour la fraîcheur des données, à savoir que certains à leur cinquième réédition font des vraies mises à jour qui intègrent des apports nouveaux. Et donc, quand ça sort en 2008, ça veut dire que c'est significatif que ça ressorte en 2008. Je crois de mémoire, par exemple, la réédition de Sociologie d'éducation de Van Zanten et du Rubella qui était sortie l'an dernier ou il y a deux ans, c'était une vraie mise à jour, c'est-à-dire qu'il y avait des chapitres entiers qui avaient été restructurés, remodelés, ça tenait en compte les acquis de la recherche entre-temps. Il y en a d'autres, ils se contentent de changer l'introduction. Hein. Il y en a même, il y a des rééditions d'auteurs qui sont morts. Moi, j'avais été choqué, je crois l'an dernier, de voir sortir un bouquin, une réédition d'un bouquin où il y avait Jackie Beyrot. Jackie Beyrot était décédé entre-temps, ça n'était même pas indiqué sur le bouquin qu'il était décédé. Donc là, on est dans la réédition au sens quasiment réimpression, quoi. Donc faites attention à regarder ça, j'y pense, parce que chez Dubuc, c'est normal aussi, ils font pas mal de rééditions. Et que quand tout à l'heure je parlais de 100 à 150 ouvrages, c'était réédition non comprise. C'est-à-dire qu'en général, je ne signale pas trop, sauf quand ça a une certaine importance, les rééditions, puisque ça gonfle artificiellement et que je n'ai pas envie de le dire aux gens. Il y a un nouveau livre de Jean-Pierre Astolfi, alors qu'en fait, c'est le même bouquin qu'il a déjà sorti il y a 8 ans et qui est réédité chaque année, quoi. Enfin, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Deuxième maison d'édition qui me paraît assez centrale dans la recherche en éducation, c'est les presses universitaires de France. Ça ne va pas vous étonner. Mais alors les PUF, ils changent très souvent de collection. Et là, par exemple, les deux collections où actuellement se publie l'essentiel, ce qui compte en recherche en éducation aux PUF, sont deux collections très récentes. En tout cas, elles ont moins de 3 ans chacune, je crois, puisqu'il me semble souvenir que j'avais vu ces premiers bouquins il y a 3 ans. C'est d'une part la collection orientée plutôt sociaux de l'éducation, mais plutôt dirigée par Agnès Van Zanten, Éducation et Société, dans laquelle il y a des ouvrages qui, dès leur sortie, la plupart quand même deviennent des classiques. Alors c'est très bizarre parce qu'il y en a certains, c'est plutôt des synthèses de recherche antérieure, c'était le cas du bouquin de Pierre Merle sur la démocratisation scolaire, et d'autres au contraire, c'est des recherches nouvelles, comme celui qui vient de sortir de Cécile Cara sur la violence scolaire. Bon, donc ça c'est... Ou celui-là, là aussi, École, Régulation et Marché, c'était le résultat d'une recherche qui venait d'avoir lieu, d'un réseau européen. Donc bon, mais là aussi c'est assez connu et c'est pas mal fait, mais c'est d'un niveau quand même universitaire. Tiens, je vais faire circuler les livres au fur et à mesure. L'autre collection intéressante est intéressante pour la recherche, même si elle se veut beaucoup plus à destination d'un grand public, voire même parfois de vulgarisation. C'est la collection Apprendre, qui, bien qu'elle soit éditée donc au PUF, donc quelque part à Paris, est dirigée par deux Belges, Benoît Galland et Étienne Bourgeois. Non, la collection, c'est... j'allais dire, mais non, normalement, il y a Étienne Chapelle là-dedans. Voilà, et Étienne Bourgeois, qui se propose à chaque édition sur un thème de c'est des ouvrages collectifs où on fait un peu la synthèse des savoirs avec beaucoup de focus, des petits portraits, des encadrés sur telles notions, sur tels ouvrages de référence. C'est pas mal, c'est l'idéal dans une démarche d'apprentissage, c'est-à-dire on ne connaît pas la question, on veut commencer à apprendre. C'est assez didactique, c'est bien. Didactique au sens d'apprentissage, pas en sens de science. Voilà, je le fais passer aussi. Ça, c'est pour les deux collections principales des PUF. Il y a l'INRP. Alors l'INRP, je n'ai pas mis les collections parce qu'on a des collections à l'INRP, mais je dois avouer que c'est pas en suivant la collection qu'on peut vraiment comprendre la politique éditoriale de l'INRP. Mais l'INRP publie, la caractéristique de l'INRP, c'est des ouvrages de recherche en éducation qui, a priori, n'auraient pas vocation à être publiés ailleurs. C'est une contribution spécifique à la recherche en éducation, où il y a un gros travail éditorial derrière, de mise en forme, etc. Donc de ce point de vue-là, on est grosso modo de même qualité que de book, je crois, hein, réellement. Mais sur l'aspect éditorial au sens intellectuel du terme, c'est un peu plus hétérogène, puisqu'on couvre tout le champ. Il peut y avoir de la didactique, de la socio, des choses qui s'adressent plutôt à la limite même aux enseignants parfois, d'autres au contraire qui sont très théoriques, de l'histoire de l'éducation. Bon, je ne peux pas réellement vous dire de suivre une collection. Et l'INRP publie combien par an à peu près ? 10 ou 12 ouvrages, voilà. Certains deviennent des classiques, d'autres restent à la limite anecdotiques, plusieurs années après, c'est assez variable. Donc on ne peut pas... Mais bon, c'est facile à surveiller. Autre éditeur important, c'est ESF. Je ne sais pas ce que ça veut dire ESF, d'ailleurs. ESF, alors c'est une collection dans laquelle s'exprime souvent Philippe Mérieux, soit directement, soit il préface des ouvrages, etc. Mais je n'ai pas réussi à trouver s'il était directeur de collection là-dedans. Ça m'a étonné. Ben, il me semble aussi, mais je... C'est celle-là, d'ailleurs. Non, parce que c'est... Nominalement, c'est Develay, le directeur de collection, là. Notre collègue a raison. Mais enfin, bon, Raphaël Mérieux est très présent dans cette...
Mais sur la pédagogie ou...
Je sais pas. C'était mal renseigné, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein, pour... Il faut bien suivre ESF. Alors, ESF a plusieurs types d'ouvrages. Il y en a beaucoup qui sont orientés vers la pratique, mais il y en a aussi qui sont des ouvrages réellement de pure réflexion en éducation. Donc ça, c'est un éditeur à suivre, qui est assez facile à suivre. Je le fais passer par ici. J'en ai pris un au hasard, qui est un peu vieux. J'ai vu les photos des gens en question, mais c'est quand même intéressant. Donc je vous cite les deux collections principales que vous pouvez suivre, même si ils en ont beaucoup d'autres concernant l'éducation. Deuxième type d'éditeur centraux, alors les presses universitaires de Rennes, c'est assez récent quand même. Presse universitaire de Rennes, ça fait quelques années, mais qui monte énormément en puissance dans le domaine des sciences humaines et sociales, et ils publient beaucoup en recherche en éducation. Alors d'une part, dans une collection entièrement dédiée à l'éducation, vous voyez les noms des deux directeurs, ça vous dit tout de suite quelque chose, hein. Gérard Sansévi, qui est plutôt orienté didactique, et Patrick Rayou, plutôt sociaux, mais bon... Les deux parlent très bien entre eux. Qui dirige la collection Paideia, Paida, comment on dit ? Bref. Mais, alors là, je crois qu'il y a une erreur. Hein. De Quetel, il n'a jamais dirigé le sens social à Rennes. Hein. Là, ça doit être un copier-coller hasardeux. Oubliez complètement De Quetel là-dedans. Hein. Je, bah, là, j'ai dû faire un copier-coller. Ouais, là, non, il dirige pas du tout le centre social. Donc, je disais, donc, une collection principale en éducation qui est PDA, donc, dont je n'ai pas de livre, j'avais pas de livre sous la main, c'est pour ça que je voulais pas amener, mais qui publie énormément. Et puis, vous avez une collection qui est plutôt dédiée à la socio, mais où il y a pas mal de trucs sur l'éducation, donc je me suis permis de la mentionner, donc c'est le centre social, donc je me rappelle plus qui est le directeur de collection, je crois qu'il y a... De Quéros, l'un des deux c'est De Quéros, ça y est j'en suis sûr, l'autre je ne me rappelle plus qui, et qui publie pas mal de choses, il y a un bouquin par exemple de Marco Berti sur les stratégies scolaires, il y a, bon, il y a un bouquin sur les étudiants en France qui vient de sortir, que je fais circuler notamment, mais je l'avais dans mon bureau. Hein, donc... non on rigole parce que j'ai écrit un chapitre dedans, donc c'est assez rare hein, pour être signalé. Autre éditeur central, Peter Lang. Alors, c'est un gros éditeur, Peter Lang. Hein. C'est l'horreur pour Peter Lang, c'est quand on fait une bibliographie, c'est, vous savez, quand on doit mettre la ville d'édition Peter Lang, si on est très scrupuleux, il faut qu'on mette à peu près 6 villes derrière, style Berne, Zurich, Genève, New York, je sais pas quoi, etc. Bon, donc en général, c'est pouf pouf, je mettrai celle-là et puis on en met une. Et puis bon, parce qu'on ne sait jamais à quel saint se vouer. Donc Peter Lang, c'est une très grosse maison d'édition internationale et qui a, à l'intérieur d'un magma de choses, une collection exploration qui est en fait gérée par la Société suisse des sciences de l'éducation, dont j'ai mis les noms ici, et qui publie un peu de recherche en éducation francophone ou non, puisqu'il y a aussi de l'allemand, qui est en recherche en éducation générale ou non, puisqu'il y a parfois des choses très pointues en didactique ou dans d'autres domaines que je n'arrive même pas à identifier. Donc c'est pas évident. Alors c'est important, Peter Lang, leurs livres sont assez chers quand même. Donc j'ai mis quand même un éditeur important, mais qui est moins productif que les autres en recherche en éducation. J'ai mentionné aussi Retz. Je n'ai pas de Retz là, non. J'ai mentionné Retz. Comment ?
Dans ceux qui sont
présentés. Ah, voilà. Merci. C'est très gentil de venir à mon secours. Ah oui, mais ça, c'est carrément le... Bah, allons, faisons circuler le dictionnaire. Hein. Retz publie pas mal alors, d'ouvrages pratiques pour les enseignants, mais y compris pour tous les niveaux scolaires, élémentaires, etc. Ils sont très axés sur l'innovation pédagogique historiquement. Et par exemple, leur directeur, Champy, est celui qui a aussi signé le dictionnaire encyclopédique là, de l'éducation de la formation que je mets en circulation. J'ai mis qu'ils avaient une collection en sciences de l'éducation. J'ai mis Champy, point d'interrogation, parce que je n'ai pas trouvé le nom du directeur de collection. Je pense que c'est Champy qui s'en occupe en direct. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, je viens de boucler la liste des éditeurs que j'estime centraux pour les monographies en éducation. Vous pouvez me dire, il y en a d'autres. Moi, pour ceux qui publient de façon régulière et constante ces 3 dernières années, puisque je vous dis, il y a 7 ans, le paysage aurait pu être différent. En éducation, je crois avoir fait une liste raisonnable. Ensuite, il y a d'autres éditeurs qui sont à traiter au cas par cas. Alors, le plus gros, c'est l'Harmattan. Alors l'Harmattan, c'est un vrai problème, à savoir que l'Harmattan publie à G continu chaque mois au moins 10 à 15 ouvrages ayant le mot-clé éducation ou formation. Mais dans ces ouvrages, ça peut être le témoignage d'un professeur d'anglais du collège de Noirmoutier qui estime qu'il a son idée sur la réforme éducative nécessaire pour sauver la France. Bon. Ça peut être 2 chercheurs qui vont faire un ouvrage extrêmement pointu sur leur domaine. Ça peut être un collectif associatif qui a envie de réfléchir sur n'importe quoi, l'aide aux devoirs et qui fait un ouvrage. Ça peut être un vieil inspecteur à la retraite qui écrit ses mémoires, etc. Il y a un peu de tout chez l'Harmattan. Comme en plus, ils expliquent rarement ce qu'il y a dans leurs ouvrages, que c'est publié à toute vitesse, que je ne sais pas, des fois, ils s'y sont réunis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail éditorial très fort derrière. Donc c'est souvent truffé de coquilles, de fautes de grammaire, de bibliographies qui ne sont pas normalisées, etc. C'est un peu l'auberge espagnole. Donc il peut y avoir des pépites qui se cachent derrière des gros rochers grossiers. Et c'est pas évident de s'y retrouver. Donc la production est abondante, elle est très inégale. Moi, je sais que je signale de temps en temps des ouvrages de l'Harmattan, de temps en temps pas, mais parce qu'il me manque énormément d'informations. Ce qui se dit aujourd'hui parmi les chercheurs dans le champ de l'éducation, même si ça ne s'écrit pas et qu'il ne faudrait peut-être pas le dire officiellement, mais ce qui se dit, c'est que, bon, on publie chez l'Harmattan si on n'a pas trouvé d'éditeur ailleurs, quoi. Hein, ça se dit de plus en plus. Non pas au fait que c'est bon ou mauvais ce qui se publie chez l'Harmattan, mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail éditorial derrière. Donc, c'est quasiment à compte d'auteur. Bon. Mais en tout cas, ça mérite d'exister et de permettre à des livres d'être édités quelque part. Hein, attention. Et il y a parfois de très bons livres qui sont publiés dedans. Mais c'est très, très inégal. Donc, je dirais que ce n'est pas l'endroit le plus facile pour suivre la production éditoriale en recherche en éducation. Alors, dans les autres collections, il y a la Chronique sociale, qui est à Lyon, que je signale pas souvent, parce que leurs livres sont assez agréables à regarder, ils sont pas mal structurés et tout, mais ce sont plutôt des ouvrages qui s'adressent quand même aux praticiens. Même si parfois ça peut être aussi très intéressant pour qui s'intéresse aux recherches sur l'éducation, mais c'est plutôt des ouvrages en direction des praticiens. Il y a aussi d'autres éditeurs qui publient des choses intéressantes. J'ai mis ensemble, ils ne seront peut-être pas d'accord, mais La Dispute, ici l'EPS,
où c'est des recherches de très bon niveau, mais en général plutôt engagées, c'est-à-dire on y trouve en général des ouvrages qui militent plutôt pour une école démocratique, pour lutter contre l'échec scolaire, etc. Il y a un petit côté quand même engagement idéologique qui est plus marqué, mais ce qui ne veut pas du tout dire que c'est pas de qualité. Je prends un exemple, là j'ai un vieil ouvrage, alors bon, il n'est pas très récent, mais c'est pas grave, de la dispute « Quand l'école se mobilise », qui avait été fait par Van Zanten, Gros-Piron, Kéroubi et André Robert, qui est de très bonne facture. Et encore récemment, c'est Stéphane Bonnery, dont on a parlé l'autre soir avec Patrick Picard, son dernier ouvrage, il est chez La Dispute aussi, d'après mes souvenirs. Alors, il y a les autres presses universitaires, que je cite au passage. Elles n'ont pas une production comparable à celle des presses universitaires de Rennes. Alors, il y a les presses de Lille, c'est les presses du Septentrion, qui pendant longtemps ont été connues pour, être liées à l'Atelier national des thèses. Ce qui explique que quand vous faites une recherche bibliographique, il y a certaines choses que vous trouvez sous l'indication Atelier national des thèses, Lille, etc., ou parfois édition, presse universitaire du Septentrion, et c'est pas toujours facile à les trouver, parce qu'elles sont répertoriées différemment. Mais bon, maintenant, le Septentrion a tendance à devenir un éditeur un peu plus normalisé. Il publie de temps en temps sur l'éducation. Il y a les presses universitaires de Grenoble. Alors là, par exemple, moi j'avais le bouquin de Monteil et Duguay qui avait été publié au PUG, celui de Cécile Carra aussi. Non, pas de Cécile Carra, il y en a un autre qui. Ah oui, de Filizetti sur l'impolitesse à l'école. La politesse à l'école. Il vient d'être publié au PUG aussi. Donc je ne sais pas pourquoi des fois c'est publié au PUG plutôt qu'ailleurs. En général, c'est des gens qui ont une relation locale, hein, qui ont fait quelque chose avec le laboratoire des sciences de l'éducation de Grenoble. Puis à Nancy, à Toulouse, bon. J'en passe. Par exemple, Toulouse est un gros éditeur en sciences humaines, mais n'a pas énormément en éducation. C'est souvent, en général, parce qu'il y a eu quelque chose en histoire qui touche l'éducation ou en littérature. Il y a les grands éditeurs, Armand Collin, Hachette, La Découverte, Odile Jacob, etc., qui publient parfois des choses sur l'éducation, mais de façon un peu incidente. Par exemple, La Découverte, évidemment, dans la collection Repères, là, ces petits mémos, vous avez le bouquin de Plaisance et Vergniaud sur les sciences de l'éducation. Chez Odile Jacob, vous avez souvent des choses qui touchent un peu à la psycho. Et puis vous avez des grands auteurs comme Dubé et tout ça qui eux peuvent publier un peu où ils veulent. Donc là après c'est en fonction des rencontres, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il faut surveiller ces éditeurs pour savoir ce qui se fait en recherche en éducation. Bon, là en gros c'est plutôt il faut surveiller des auteurs et si on s'aperçoit ah bah tiens ils ont sorti chez l'un d'entre eux, bon bah on va le chercher chez eux, mais là on ne suit pas l'éditeur, on suit l'auteur. Faber. Maison d'édition un peu spéciale, très liée à l'enseignement catholique, donc très liée aussi à la tradition un peu d'innovation et de réflexion pédagogique propre à l'enseignement catholique, ou du moins à une partie de l'enseignement catholique en France. Donc ils ont une collection très solide sur les pédagogues, une collection un peu biographique sur les grands pédagogues, et puis ils ont quelques bouquins importants. Par exemple, Langouette, et ils étaient deux, j'ai oublié le deuxième, bon c'est pas grave. Il y a eu un livre important sur enfants du public, enfants du privé, au début des années 80, dans les années 90, qui est sorti chez eux. Bon. La Pensée Sauvage, je le mentionne rapidement, puisque c'est quand même un éditeur qui a été important pour publier, notamment en didactique, et je crois en didactique des mathématiques. Il y était lié à l'IREM de Grenoble, si je ne me fais pas de... Oui, c'est ça ? Voilà. Mes souvenirs ne me trompent pas, enfin mes souvenirs. Pas vieux les souvenirs, mais bon, mes informations. Et puis, évidemment, la documentation française, alors, c'est pas un éditeur au sens classique du terme, mais en gros, c'est la documentation française, déjà qu'on trouve la plupart des rapports d'organismes publics ou parapublics qui peuvent être publiés. Alors là, je vais faire circuler le panorama des savoirs de l'Observatoire de la vie étudiante sur l'abandon des études supérieures, par exemple, qui est publié à la documentation française. Et puis, histoire d'épuiser mes petits bouquins, je fais aussi circuler un exemple qui a été publié au Seuil, mais non pas parce que le Seuil est une collection en éducation, mais c'est un ouvrage de Durubella, L'inflation scolaire, il est assez connu. Pourquoi elle a été publiée au Seuil ? Parce que, en fait, la République des idées, le think tank de Rosan Vallon, a une petite collection qui est imprimée au Seuil, donc qui s'appelle La République des idées, et que Marie Durubella a pondu ce bouquin dans le cadre de La République des idées, donc voilà, on trouve L'inflation scolaire au Seuil. Oui, mais qui ne sont pas centrés sur l'éducation, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis. Nous, la République des idées, par exemple, ou la vie des idées, comment il s'appelle ? La République des idées ?
C'est un think tank qui s'occupe du social en général et dans lequel on trouve beaucoup plus de réflexions d'économistes, de sociologues, d'historiens, de philosophes et marginalement un peu d'éducation, essentiellement via Duru et Dubé. Voilà. Donc on en a comme ça, mais on n'a pas de think tank spécialisé sur l'éducation. Voilà, c'est fini pour ce qui est des ouvrages.